Rocket.com. Le matin au www.rocket.com. On s'attend pas.
De 9h à 1h, c'est Wake Up.
Wake Up. Avec Ismaël Trépanier. Et Jonathan Bouchard.
José Théodore serait sorti au bras de Marie-Chantal Toupin.
Hey!
Qui est célibataire depuis 4 mois, les gars. Il a lâché son gérant il y a 4 mois.
Oh,
ces deux personnes-là ensemble.
Non!
Non!
T'es pas sérieux, là.
Fait que ça, t'as des bonnes sources.
Une très bonne source.
À partir d'une heure, les gars de Hard Sports prennent les commandes. Éric Veilleux et Christian Dallaire vous offrent via leurs collaborateurs invités le seul show de sport controversé à Québec.
C'est écrit sur Internet et je les tape ici. Il va falloir absolument se raser la tête, Christian. Là, et on traite de couillard là, sur le live. Là. On dit que tu es un couillard.
Je suis tout le monde d'abord. Je suis un sale pissou. Tu sais, c'est ça que tu vas entendre. Fuck off.
La musique. Rien à voir avec les autres. Look out. Rocking.com.
Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble!
Vous êtes converti à l'islam, c'est ce que vous écriviez. En juin 2003.
Non, c'est exactement juin 2003. J'ai hésité pendant une dizaine de secondes, mais ensuite, je me suis dit, c'est ma conjointe qui est le plus important, donc allons-y. Et depuis ce temps-là, je chemine dans cette religion-là de façon, disons, plutôt modérée.
Non, mais je veux dire, on n'en sortira jamais, quoi. C'est comme si un type disait, ouais, je me suis converti modérément au nazisme.
Oh!
Je suis resté cool, quand même, moi. Je veux juste l'extermination de la moitié des juifs. Tu vois, franchement, quand quelqu'un, en plus, n'a même pas, le cran de... Excusez-moi,
déjà. Oh, non!
Rock.
Now what we got to do is put the Antichrist into our human host.
Présentement, midi 3 minutes. Ismaël Trépanier, Jonathan Bouchard de quitter le Québec.com. L'émission se présente comme ceci. Wake up, réveillez-vous. On espère justement ouvrir quelques yeux, botter des derrières, parce que justement c'est une station qui a une liberté, enfin qui essaie d'avoir une liberté sans trop se faire censurer, parce qu'il est déjà arrivé, bien entendu, lors de certains entretiens avec Maurice Gédantec, que l'on soit obligé de cesser notre collaboration. Et je présume qu'avec Mme Delcambre, ça ne sera pas le cas, parce que, bon, Mme Delcambre, contrairement à Maurice Gédantec est un petit peu plus explosif, peut-être utilise certains mon vocabulaire je ne sais pas comment dire, Mme Delcambre, mais qui dérange, quoi. Mme Delcambre, bonjour.
Bonjour.
En passant, tout à fait. Maurice Gédantec vous dit un gros salut.
Ah ben, je le salue également. J'admire énormément.
Et il vous aime beaucoup, hein?
Ah ben, moi aussi, c'est réciproque.
Ah, d'accord.
C'est réciproque.
Et là, je dois dire, à midi 4 minutes, Madame Delcambre va exploser. Et va
oui,
nous
je vais exploser.
Oui, va nous expliquer pourquoi elle va exploser. Madame Delcambre, vous avez le feu vert.
Merci. Et je vais exploser parce que en France, en Belgique, en Europe en général, on marche sur la tête. C'est absolument délirant. Je m'explique. Lors de l'affaire des caricatures, on a fait honte aux Occidentaux non musulmans en disant, s'agissant du dessin qui représente Mahomet avec un turban en forme de bombe, mais c'est une honte, vous représentez le prophète de l'islam comme un terroriste, ça veut dire que tous les musulmans le seraient, et on a eu le recteur de la mosquée de Paris, Dalil Boubaker, qui s'est dit très choqué par les caricatures, surtout celles qui représentaient Mahomet tenant un sabre à la main. Et moi je dis choqué ce cher recteur par la représentation de Mahomet avec un sabre. Mais moi, j'explose devant tant de mensonges. Pourquoi? Parce que si je regarde la vie du prophète, la seule, la vraie, la première, celle de Ibn Hisham, j'appelle parce qu'il y en a qui me disent qu'il faut quand même qu'ils comprennent, Ibn, I-B-N,
Oui.
Hicham, H-I-C-H-A-M.
OK.
Traduction de Wahib Atala, A-T-A-2-L-H, Paris, Fayard, 2004. Si je regarde les hadiths, H-A-D-I-T-H, c'est-à-dire les récits concernant le comportement du prophète. Hein. Il y a quatre volumes traduits à Paris, Maisonneuve, 1984, par Roudas et Marseille. Si je regarde le Coran, les 114 chapitres, qu'on appelle sourate, plus, ça fait à peu près 6000 versets, qu'est-ce que je vois? Eh bien, je vois quelque chose d'ahurissant. Par exemple, je prends parmi les hadiths, Al-Bukhari, B-O-K-H-A-R-I, titre 56, chapitre 22, tome 2, et je vois, écoutez bien, sachez que le paradis est à l'ombre des sabres, à l'ombre des épées. Dans le même Bukhari, je vois, quiconque change pour une autre la vraie religion, c'est-à-dire l'islam, qu'on le tue. Je vois tout juif qui vous tombe sous la main, tuez-le. Et dans la biographie du prophète, c'est de Ibn Hisham, H-I-C-H-A-M, page 232-233. Eh bien, le prophète a tellement choisi de faire peur qu'il a laissé se perpétuer des assassinats, des meurtres politiques. Il a donné le feu vert. Je vous raconte une histoire, vous êtes assis, j'espère. C'est l'histoire de Asma bint Marwan. Elle avait fait des vers de poésie extrêmement insultants pour le prophète. Et quand on a rapporté ça à Mahomet,
oui.
Il a dit tout haut, « Est-ce que personne ne me débarrassera de la fille de Marwan ?» Il y avait là un homme du clan, du même clan que la poétesse, il s'appelait Omair ibn Adi, O-M-A-Y-R, plus loin ibn Ibn Adi. Et le soir même, ce brave bonhomme, pour faire plaisir à son prophète bien-aimé, s'introduisait chez la poétesse. Elle dormait au milieu de ses enfants, et même le petit dernier, il était encore à téter le sein, il sommeillait sur sa poitrine. Il la transperça de son épée. Et le lendemain, il alla trouver l'envoyé d'Allah, c'est-à-dire Mahomet.
Attends, non, Madame Delcambre, vous allez me dire, qui a transpercé le bébé?
L'adepte, le musulman, celui qui voulait faire plaisir au prophète. Oui, il a pas transpercé le bébé, il a transpercé la poétesse avec son épée.
Oh.
Mais attendez, ensuite il est allé trouver le prophète. Il a dit, envoyé de Dieu, je l'ai tué. C'est-à-dire la salope, celle qui a fait les vers contre moi. Et ce que lui a répondu le prophète, tu as secouru Allah et son envoyé, Omair. Et alors lui, il a demandé au Omar, est-ce que je supporterais quelque chose à cause d'elle? Parce que vous savez, elle avait quand même des parents, des amis, il risquait d'avoir une vendetta.
Exact.
Et le prophète a dit, deux chèvres ne choqueront pas leurs cornes pour elle. Et cela, cet assassinat, s'est classé par les chroniqueurs musulmans parmi les expéditions du prophète. Et je continue le mois suivant, le poète centenaire Abu Afak, A-F-A-K, qui avait fait des vers, trois vers seulement, trois vers de poésie contre le prophète, il fut tué pendant son sommeil. Et le plus connu, j'en ajoute, c'était un poète juif par sa mère. Il s'appelait Ka'b, K-A-B, Ibn Ashraf. Il avait insulté, c'est vrai, il n'était pas très gentil. Et le prophète excédé a dit, qui me débarrassera de Ka'b Ibn Ashraf? Et alors le poète a été assassiné dans des conditions d'hypocrisie, de manière absolument infecte. Et moi, je pense à tous ces meurtres politiques que l'islam accepte. Les traités sont tous heureux de les classer parmi les expéditions du prophète. Quand Nasrallah, un musulman d'aujourd'hui, a dit ceci concernant les caricatures danoises. Si un musulman avait eu le courage d'exécuter la fatwa de l'imam Khomeini à l'encontre de Salman Rushdie,
oui,
ces journaux n'auraient pas osé s'en prendre à notre prophète. Autrement dit, vous savez comment se dit terrorisme en arabe? C'est le nom tiré du verbe arhaba qui veut dire faire peur. Irhab, c'est le terrorisme. Et quand vous voyez défiler les musulmans portant des pancartes du style « massacrer ceux qui insultent l'islam »,« exterminer ceux qui insultent l'islam », quand vous voyez le roi de Jordanie, Abdallah II, qui affirme que l'insulte au prophète de l'islam, c'est un crime inqualifiable, je dis « mais qui Alors, je précise, ceux qui ont représenté le prophète avec une bombe
oui.
ou avec un sabre, ils n'ont pas caricaturé le prophète. Car la caricature, c'est quoi ? C'est un art qui consiste à exagérer certains traits, à donner une représentation déformée, n'est-ce pas ?
Oui.
Outrancière de la réalité.
Exact.
Mais là, il n'y a pas eu caricature, car il n'y a pas eu déformation de la réalité. Il faut dire que Mahomet, il a mené contre ses opposants pas moins de 19 guerres, 19 expéditions, que vous trouvez dans El-Bukhari, titre 64, chapitre 89, tome 3, page 248. Vous avez dans le Coran la sourate 8, la sourate du butin. Vous avez Jean-Paul Charnay, qui est un spécialiste, qui écrit, il reprend la phrase de Ibn Taymiyyah, c'est un juriste de la fin du XIIIe siècle, début du XIVe, « Je suis le prophète du carnage ». Et la troisième tribu juive à Médine, elle s'appelait les Banu Qurayza. Eh bien, 900 juifs ont été massacrés parce qu'ils avaient plus ou moins trahi, bon, peu importe, mais en 627. Alors je dis, attendez là, c'est grave, parce que Mahomet est le beau modèle. Vous savez qu'il est dit dans la sourate 33, verset, je crois que c'est le verset 21, « Vous avez dans mon envoyé, Mahomet est un beau modèle. Uswatun Hasana. » Vous avez également, dans la sourate 4, verset 80, que ceux qui obéissent au prophète obéissent à Dieu. Donc, il n'y a pas eu caricature du prophète par okay. les Danois. Ils n'ont fait que représenter. Ils ont été en dessous de la vérité. Ils ne pouvaient pas le représenter avec une fleur dans la main ou une colombe sur la tête. En revanche, tenez-vous bien. Moi, si j'ouvre le Coran,
oui.
mon livre de chevet, qu'est-ce que je vois ? Je vois la caricature des Juifs presque dans tous les versets. Ce sont des gens maudits. Injuste, ingrat, pervers, enfoncé dans le péché, sans foi ni loi. Tenez-vous bien, ils sont des faussaires. Sourate 2, verset 79, il est écrit ceci. Malheur à ceux qui de leurs propres mains composent un livre,
oui.
puis le présentent comme venant d'Allah. Vous vous rendez compte, je voulais vous le dire en arabe.
Fawailun
illazina yaktubuna al-kitaba bi-aidihim thumma yakuluna haza mina indillah. Ça veut dire qu'on les présente, comme il y a des rouleaux, vous savez, il y a des rouleaux chez les juifs, ceux qui pratiquent le judaïsme, on les présente comme des faussaires. Ils sont maudits. Vous prenez la sourate 4, verset 155, okay. nous les avons maudits parce qu'ils ont rompu leur alliance avec nous. Et le mot alliance, c'est le mot mithaq.
Ouais.
Ils ont été incrédules, ils ont tué sans droit les prophètes. Ils ont commis contre Marie une immense infamie. Ils ont inventé qu'ils avaient tué Jésus. Ils mangent les biens des gens. Ce sont des usuriers infâmes. Écoutez bien la sourate 5, verset 60. Et je vous laisse un peu respirer. Il est dit, ceux que Allah a maudits. Man la'anahu Allah. Ceux contre qui il est en colère. Wa radiba alayhi. Et ceux dont il a fait des singes et des porcs. Wa ja'ala minhum al-qirada. Wal-Khanazir. Voilà ce que, comment sont décrits les juifs. Et vous trouvez que c'est pas une injure ? Comment moi qui lis ça, qui ouvre le Coran, qui le lis tout le temps, qui l'apprend par cœur, quelle image je vais avoir des juifs ? Quelle image je vais avoir des juifs ? Et ceci, c'est depuis le début de l'islam jusqu'au jour de la résurrection. Moi, qu'est-ce que je vais faire ? En voyant ça, je me dis, ce sont des pourritures. Regardez ce qui est dit dans la sourate 5, verset 70. Nous avions pris l'engagement des enfants d'Israël. Nous leur avions envoyé des messagers. Mais chaque fois qu'un messager leur vient avec ce qu'ils ne désirent pas, ils en traitent certains de menteurs et ils en tuent d'autres. Laqad akhazna mithaq bani Israila wa arsalna ilayhim rusulan kullama ja'ahum rusulun bima la tahwa anfusuhum. Ça veut dire, il y a une partie qui traite de menteurs et une partie qui le tue. Autrement dit, les juifs, ils ne peuvent que soit traiter les gens de menteurs, soit même tuer. Vous savez ce que ça veut dire, ça ? Ça veut dire que tous ceux qui liront le Coran, eh bien, ça incite à tuer les juifs. Ça incite à tuer les juifs parce que, voilà ce qui est dit dans le Coran, avant les juifs étaient très aimés de Dieu, c'était les fils d'Israël. Ils ont rompu leur alliance, ils se sont comportés comme des porcs et des singes. Maintenant, les vrais fils d'Israël, ce sont les musulmans. Et voyez ce que représente Israël. Voyez pourquoi, par exemple, le président de l'Iran, il est fou quand il voit les juifs triomphants en Israël.
Ouais.
Parce que tout le Coran est en quelque sorte bouleversé par le fait que Israël ne peut appartenir qu'aux vrais fils d'Israël, le virus Israël, c'est-à-dire les musulmans.
Madame
Delcombe. Pourquoi je suis révoltée, j'ai explosé.
Je comprends. Madame Delcombe.
Oui.
Je sais que vous n'êtes pas généticienne. Que vous ne savez pas exactement qu'est-ce qui peut faire en sorte que les hommes ou enfin qui... Bon, non, je reprends ma question.
Oui.
Qui a exactement écrit le Coran? Qui a écrit le Coran? Ok,
alors,
est-ce qu'on peut envoyer promener Mohamed? C'est pas lui qui a écrit le Coran. Qui a écrit le Coran?
Je vais vous dire quelque chose, Ismaël. Moi,
oui,
toutes les religions, vous savez, je suis encore plus, autant agnostique que vous. Donc, c'est pas sur ce plan-là que je les attaquerai.
Oui.
Je dis que quand je vois, par exemple, sourate 9, verset 30, que Qalatil Yahoud, Ozaïr, que les Juifs ont dit que Ozaïr était le fils d'Allah et que les chrétiens ont dit le Christ est le fils d'Allah, ça m'est complètement égal.
Oui.
Mais c'est la fin qui me fait peur.
Qatalahumullah,
que Dieu les anéantisse avec le cul explosé encore. Qatalahumullah. Alors vous comprenez, non mais vous riez. Mais
non, vous faites référence à qui, le gars, vous faites le cul exploser?
Non, ça veut dire la lettre Q sur le plan phonétique.
Oui, mais vous prenez ça de quelqu'un.
Pardon?
Vous prenez ça de quelqu'un en particulier?
Non, je dis parce que voilà, on fait exploser dans la gorge, on fait le K et on le... Vous voyez, pour prononcer cette lettre qui est un peu difficile à prononcer.
Ok.
Ce que je veux dire, c'est que personnellement, c'est vrai qu'il est écrit dans le Coran, les femmes, frappez-les, idribuhunna, mais moi les femmes, bon, frapper, je ne suis pas... Non, c'est très mal ça, de frapper les
c'est
femmes.
C'est mal! Voyons, il y a de toute manière, peu importe l'individu, peu importe la chose, l'être humain, l'animal... Pourquoi frapper, là? Okay.
Voilà, mais ce que je veux dire, Ismaël, c'est qu'avec la situation politique, des phrases comme ça, qui incitent à la haine, donc pour le pieux musulman qui est persuadé que c'est la parole de Dieu, je dis, c'est effrayant. C'est effrayant parce qu'avec Israël, il se dit, si Israël disparaissait, si tous les Israéliens étaient passés au fil de l'épée, eh bien, la parole de notre bien-aimé Allah se réaliserait. Est-ce que vous voyez pourquoi c'est grave?
Oui.
Non?
Oui.
C'est-à-dire, il y a des choses plus ou moins graves. Bon, si vous voulez, moi, ce que je veux, c'est que ces versets qui ne nous sont jamais montrés, ce qu'on ne dit rien, ça soit porté à la connaissance de tout honnête homme. Et de leur dire, parce que quand il y a De Villiers qui dit... l'islamisation de la France, il est traîné devant les tribunaux. Quand il y a en Belgique un pauvre père Samuel qui a simplement dit « Attention, les musulmans, ça risque d'être, à cause précisément de leur islamisation, ça peut être une bombe dans le futur. » Il a maintenant un procès avec le Centre de l'égalité des chances en Belgique. Et pourtant, ce pauvre père, c'est pas avec son crucifix qu'il va taper la tête des gens, il va pas inonder la Belgique avec son eau bénite. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'on roule... On marche sur la tête plutôt. C'est-à-dire que c'est nous qui avons des procès, c'est nous qui sommes en quelque sorte, ce sont les assassins qui demandent justice, ce sont les poseurs de bombes qui se plaignent, et c'est le brave citoyen qui est traîné devant les tribunaux. Mais je dis, j'en ai marre, bonsoir de bonsoir. On me dit, tu vois, regarde bien, il y a plein de bombes, il y a ceci, toi tu as fait pendant 25 ou 30 ans, tu as étudié le Coran, eh bien l'islam c'est paix et tolérance. Le prophète de l'islam, c'est avec une fleur à la main et une colombe. Mais je dis, mais c'est pas ça.
Okay.
C'est pas ça qui se dégage des textes. C'est faux. Ce sont des mensonges.
Mais oui, c'est des mensonges. C'est ça que je comprends pas. Comment se fait-il que les gens soient pas... Voyons, j'ai de la misère à saisir ça, là.
Mais j'arrive pas.
Comment ça se fait que nous, on voit la violence qui est à l'intérieur de ça et que eux, c'est pas la violence.
Bien, je vais vous dire. C'est ce qu'appelle Darius Shayegan, appelle ça le regard hémiplégique.
Ah.
Il dit... Voyez, il dit, ce qui se passe pour les gens des sociétés traditionnelles, en particulier pour l'islam, puisque lui, il est iranien, il y a comme s'il y avait une sorte de paralysie de la moitié du corps. C'est-à-dire que lorsque vous dites à un musulman, oh, c'est quand même un peu idiot que Jésus soit le fils de Dieu, il dit tout à fait, il est tout à fait d'accord, il dit, vous avez raison, sur le plan rationnel, c'est absurde. L'ami Alid ou l'ami Oulad, il ne peut pas engendrer ni avoir été engendré. Bon. Mais si vous lui dites, c'est stupide ce que tu as dans ton Coran, etc., immédiatement, il est paralysé, il vous regarde, il ne peut pas porter un jugement critique sur sa propre tradition. C'est ça qui est affolant.
Mais vous voyez, Madame Delcombe, j'adore énormément la psychologie. Est-ce qu'on pourrait faire peut-être un lien avec le syndrome de Stockholm. Le peuple musulman serait d'une certaine façon kidnappé par le Coran depuis des années et des années. Et
c'est vrai.
Il serait d'une certaine façon en adoration avec le ravisseur, je sais pas.
C'est-à-dire que, ce que je vais vous dire, sincèrement, moi je le constate par rapport à la langue.
Oui.
Il y a, vous savez, vous qui êtes spécialiste de musique, la magie du verbe coranique,
oui,
c'est que vous l'écoutez dans une sorte d'extase.
Oui.
Et c'est vrai que lorsque vous l'écoutez, c'est comme quand vous écoutez de la musique, vous n'écoutez pas chaque mot en disséquant, en disant, attention, ça c'est qatala, ça veut dire tuer, ça veut dire qatala, qui veut dire combattre. Non, vous l'écoutez pas comme ça. Vous l'écoutez, et c'est très bien fait, parce que les spécialistes de la langue arabe ont fait tout pour que l'oreille ne soit pas heurtée. Par exemple, quand vous avez un M, qu'on appelle un mime en arabe, plus un N, on a fait un double M pour que votre oreille ne soit pas choquée. Au lieu de dire, par exemple, an-ma, on fait amma. Vous voyez, parce que, comme a dit Al-Ghazali, tout passe par le vestibule de l'oreille et que ça pénètre dans le cœur.
Oui.
Et vous êtes dans une sorte de... Vous êtes sous les... C'est un effet magique. Vous écoutez comme vous écoutez de la musique. Et par conséquent, le musulman, par rapport à la langue arabe, parce qu'il lit le Coran en arabe, il le psalmodie, peut-être même à la limite ne comprend pas tout, peut-être il ne comprend pas grand-chose, mais c'est quelque chose... D'ailleurs, c'est vous savez que la psalmodie du Coran, hein, on ne peut pas le faire avec une voix de femme, parce que ça susciterait quelque chose, ça troublerait le croyant, il risquerait d'avoir une érection.
Une érection, probablement qu'il y aurait une masturbation en dessous de sa toge.
Ah, ben, c'est sûr, donc faut éviter ça. Bien. En revanche...
Oui.
Il faut que ça soit une voix mâle, qui le psalmodie, et le prophète aimait beaucoup, il avait une belle voix, il aimait beaucoup ceux qui avaient une belle voix. Vous savez ce qu'a dit Jean-Jacques Rousseau?
Oui.
Il a dit, il a dit une phrase très très jolie, c'est un romantique, il a dit, qui en feuilletant l'Alcoran se moque, etc., qui s'il entendait psalmodié prononcé par Mahomet en personne, ce serait en quelque sorte jeté par terre en disant,
oui,
grand prophète, nous croyons en toi. Il avait parfaitement compris, Jean-Jacques Rousseau, que nous, ce qui nous fait rire, parce qu'on est en train de le disséquer, là, en disant, regardez ce qui est dit, là, tuez-les, etc. Mais ce qu'on ne voit pas, c'est qu'il y a une magie du verbe, il y a des paroles extrêmement... C'est-à-dire, ce sont des paroles, même dans les dernières sourates, parce qu'il y a 114 chapitres, les petites sourates sont celles qui ont été révélées à la Mecque, elles se trouvent à la fin, c'est l'ordre inverse de la révélation. Eh bien, quand vous écoutez ça, c'est un peu comme si vous écoutiez du chant grégorien ou une musique.
Okay.
C'est-à-dire, c'est très rythmé, ouais, c'est très rimé, il y a une rime, et c'est extrêmement prenant. Et ça, c'est le gros atout du verbe coranique. Ils écoutent des cassettes, ils sont imbibés du verbe coranique. Imaginez quelqu'un qui a un morceau de rock qu'il adorerait et qui le repasserait, au point qu'il soit complètement drogué, accro à ça.
Oui. Madame Delcambre,
oui,
cette semaine, j'ai discuté avec un super résistant et il y a une chose qui est revenue et que je trouvais particulièrement spéciale chez les... Bon, un, tant qu'ils ne sont pas mariés, ils n'ont pas de relations sexuelles.
Ah ben oui.
Oui, hein.
Parce que sinon c'est considéré comme zina, l'adultère, c'est-à-dire que ça c'est puni. Ah,
d'accord. Est-ce que j'ai raison de croire que c'est... Non, il n'y a pas de problème. Est-ce que j'ai raison de croire que c'est une religion un peu homosexuelle?
Alors, vous faites une analyse extraordinairement, si je puis dire, pointue et subtile. Parce qu'il y en a un de nos chercheurs, qui est d'ailleurs arabe d'origine, il s'appelle Jamal Eddin Benchir, qui a dit que précisément... Il y avait cette relation, c'est-à-dire que c'est très masculin, et il y avait une homosexualité si grande à Bagdad au Xe siècle qu'il y en a un poète qui a écrit, il s'appelait Abou Nouas, et il a dit, après tout, une belle femme, c'est comme une marmite, même une marmite en or, c'est toujours qu'une marmite, hein, ça sert à faire les mots, tandis qu'une belle amphore, une belle, vous savez, quelque chose, un beau vase, ben, ce sont un bel éphèbe. Ah oui, il y a eu d'ailleurs une lettre entre justement les mérites des femmes et les mérites des hommes. Et certains disaient, non, un jeune garçon, c'est beaucoup plus beau. Il y a eu beaucoup d'homosexualité à Bagdad au Xe siècle, beaucoup.
Étrange.
Non, parce que c'est, si vous voulez, une société qui est tellement fermée. Vous savez ce qu'on dit?
Oui.
On dit Rajulun wa Mar'atun wa Shaitan Bainahuma. Un homme et une femme à côté, l'un de l'autre, c'est Satan qui est au milieu des deux.
Oh. Oh non. Ça,
non, bien. Je sais, mais pourtant, oh. Je vous assure, je n'exagère pas, hélas.
Non, écoutez, je vous crois. Je vous crois, c'est ça l'histoire. J'ai des questions,
ben oui.
Madame Delcam, live-rocket.com. Il demande ici, sachant que la réforme du Coran, le terreau de cette barbarie n'est pas envisageable selon tout musulman qui se respecte, et qu'il est encore plus impensable de déconvertir ou de reconvertir des millions de musulmans. Comment, dès lors, pensez-vous que cette situation finira par se dénouer, mal ou bien?
Ouais, je sais, c'est la question que je me pose presque chaque jour. Tantôt je suis optimiste, tantôt je suis pessimiste.
Oui.
C'est-à-dire que je pense qu'il y a une partie de bras de fer et que la modernité l'emportera et comment dirais-je, qu'ils referont ce qu'ils avaient fait d'ailleurs quand ils étaient arrivés à Bagdad au Xe siècle, c'est-à-dire une sorte de dijtihad, de comment, il y a des choses qui ne pourront plus être acceptées du fait que ça paraîtra bizarre même aux croyants. Je prends un exemple. C'est vrai que le prophète se baladait avec une robe comme ça, plutôt longue, et avec de la barbe, etc. Bon, ben vous voyez que la plupart des musulmans, quand même, bon, ils mettent quand même le costume européen, ils surfent sur Internet. Je vois pas les musulmans se priver de télé, se priver de musique. Parce qu'attention, s'ils prennent l'islam du prophète du début des origines, c'est ni musique, ni télé, les antennes parabioliques. Et je crois que les musulmans ont aussi envie de profiter de l'existence. Et par conséquent, je pense que la modernité, ben, il y a une lutte, une partie de bras de fer, on le dit toujours. Et moi je dis, parce que en faisant connaître ça, qu'ils ne savent pas que ça existe, parce qu'on leur ment pour précisément mieux les enfoncer en faisant connaître cela, eh ben vous savez, il y a autant de musulmans intelligents que dans n'importe quel... Vous voyez, c'est-à-dire, il y a des gens aussi qui raisonnent, qui disent, ben non, il faut en sortir. Et il y en a un qui a essayé d'en sortir, c'était un Soudanais.
Oui.
Un Soudanais, un vraiment pauvre homme. Et il a essayé de dire, attendez, on pourrait peut-être aussi distinguer entre ce qui est valable sur le plan universel et puis ce qui est circonstanciel. Il a été pendu. C'est ça, faire peur. C'est pour ça que je dis que l'Occident baisse leurs pantalons et que je leur en veux beaucoup. Parce que si on résiste, si on dit, attendez, arrêtez les mecs, vous délirez. Si on montre que c'est délirant, si on montre que... Mais s'il n'y a aucune résistance, si tout le monde baisse son pantalon... Vous savez, il y a un copain qui m'a dit, lorsque la gauche chez nous, il y a des gens, je ne dirai pas les noms parce que j'aurai un procès, qui sont allés en Corse, il y a un Corse qui m'a dit, ils avaient tellement peur d'avoir quelqu'un, qu'ils regardaient, ils ne pouvaient même plus, ils étaient livides, ils regardaient derrière eux. Le problème, c'est que les gens ont peur, ils disent, oh, on va être flingués, ils vont nous tuer, on va être égorgés, et c'est ça sur le quoi ils comptent là-dessus. Faire peur de façon à nous dissuader de recommencer, par exemple, à faire des caricatures, faire passer une loi pour précisément interdire de blasphémer, et ça y est, ils ont gagné une partie du chemin. Donc, on interdit de blasphémer, on interdit de critiquer, on interdit d'analyser, on interdit les islamologues, on interdit, et puis ils arrivent en disant, mais qu'est-ce qu'elle a notre religion de différent de la vôtre? Qu'est-ce que c'est? On est tous pareils, toutes les religions sont pareilles. Et alors, vous savez ce qui s'est passé au salon du livre de Toulon? Il y a deux personnes, deux bons catholiques qui s'étaient convertis à l'islam. Ils achètent mon livre, L'Islam des Interdits, ils le lisent, et ils reviennent excités comme des puces. Ils disent, mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais on nous a trompés. Ils sont pas allés trouver leur imam en disant, mais qu'est-ce que c'est que cette religion-là? Vous nous avez pas dit ça? Oh, j'ai dit, écoutez, attendez que je sois parti de Toulon pour régler vos comptes avec l'imam, parce que moi, j'ai pas envie d'avoir un pépin. Mais voyez, c'est-à-dire qu'ils s'engagent sans savoir ce que c'est. Sans connaître et savoir, sans savoir qu'une fois qu'on est converti à l'islam, on ne peut jamais sortir de l'islam. Ça s'appelle l'apostasie. Et l'apostasie est punie de mort. Ils s'engagent sans savoir que la femme, la possibilité, c'est marqué dans le Coran, idribouhunna, frappez-les. Ils s'engagent sans savoir que s'ils trompent leur mari, ça, l'adultère. Vous voyez, c'est-à-dire qu'ils ne se rendent pas compte de ce qu'est cette religion, qui est une religion qui a sa particulière, qui était valable pour l'époque du prophète, mais qui chez nous fait, ça fait bizarre. Et il nous a pas dit, super résistant, une seconde, il nous a pas dit. Vous savez que dans une banlieue, il y a eu une jeune fille qui a été lapidée à la manière... Vous savez, cette culture, elle existe. Et on verra bientôt des filles considérées comme des putes. Eh bien, la lapidation telle qu'elle est pratiquée en Iran ou chez les talibans ou dans la loi islamique, eh bien, ça impressionne.
Je sais pas, moi, Madame Delcamp, peut-être qu'ils visent véritablement les vraies prostituées, je sais pas.
Oui, mais de toute façon, les prostituées, les homosexuels, ceux qui trompent leurs femmes, les noms, tout ça... ça disparaîtra comme des mauvaises herbes.
Ah, d'accord.
C'est ceux qui sont pourris et qui sèment la corruption sur la terre. Vous savez, parfois, moi, je pense à Théo Van Gogh. J'en suis malade. Je me dis, cet homme, il est mort, non pas à cause de celui qui l'a tué seulement. Il est mort à cause de la lâcheté de ces couillons qui nous assènent à longueur de journée que l'islam est paix et tolérance, que jamais il y a eu des versets, jamais ce n'est pas dit dans le Coran, que ce n'est pas écrit dans le Coran, et c'est à cause de ça que Théo Van Gogh, eh bien, le pauvre, il est mort. Et voyez, c'est ça qui me fait mal. Je me dis, ne dise pas, voilà ce qui est écrit dans le Coran, et j'ai envie de hurler et d'exploser.
Madame Delcamp.
Mais oui, parce que, vous voyez, quand vous ne dites pas, par exemple, qu'il y a un danger dans tel ou tel verset, et si demain le petit Ilan Halimi, on ne dit pas, quand vous répétez 20 fois que les Juifs sont des pourritures et qu'ils devraient disparaître de la surface de la terre, eh bien, ne vous étonnez pas qu'un jour, des gamins dans les banlieues, qui sont nourris de cette culture, disent, voilà le Juif, voilà le porc, voilà le chien, voilà ces chiens d'infidèles, tuons-les. Ils ne font que reproduire la phrase de leur prophète que je vous ai lue au début. Il y a un juif derrière une pierre, eh bien, tuez-le. Non, je sais, je suis un peu violente, mais ça m'énerve.
Madame Delcambre, c'est pas grave que vous soyez violente. Je vous aime quand même.
Ben voilà. Non, mais c'est parce qu'on a du mal,
oui.
à imaginer.
Non, on n'a pas de mal. Vous savez pourquoi?
Bon? Non.
Allez. Non, parce que vous êtes là.
Ah, c'est...
Oui, non, je sais que ça vous fait peut-être rire, mais parce que vous êtes là, parce que nous sommes là, et qu'on puisse vous entendre, nous allons, d'une certaine façon, ou d'une autre, réveiller des personnes.
Il faut, parce que c'est un devoir de vigilance.
On va réussir.
Ah, moi, je crois.
Moi, je suis certain de ceci, c'est qu'on va réussir à réveiller des gens.
Mais dites-moi, mais s'ils ont interdit, comment dirais-je, à Dantec de parler, pourquoi ils me laisseraient, moi?
Madame Delcambre.
Ouais, ouais.
Dantec, là. On a réussi à trouver une façon de...
D'accord.
De travailler.
D'accord.
On ne dit jamais à quel moment il arrive.
C'est bien.
Voilà. Et on ne met plus ces entrevues, mais on ne dit pas à quel moment il arrive.
Voilà, c'est ça.
Aussi simple que ça.
Non, parce qu'il y a quelque chose qui se passe qui est honteux. Moi, je dis ce qui est honteux.
On ne fait plus, si vous saisissez l'expression du « more to come », on n'annonce plus lorsqu'il arrive. Aussi simple que ça.
Et yes.
Il est venu cette semaine, mardi, discuter avec nous.
C'est bien.
Oui. Et je vous
assure... C'est bien parce que c'est un visionnaire. C'est un type absolument génial.
Et on aime bien les visionnaires. On se colle, justement, aux gens réveillés. C'est pour ça que le titre de notre show s'appelle « Wake up ». Réveillez-vous. Réveillez-vous.
Non, c'est vrai, c'est bien. Mais vous savez, j'ai dit à mon éditeur, j'ai dit, il y a uniquement cette radio au Canada, sinon tout le monde, je ne veux même pas, moi, faire des débats, puisque de toute façon, on va couper, on va m'empêcher de parler, et puis, il y a ce problème aussi. Attention, il faut permettre aux musulmans de s'épanouir, de vivre normalement, et je suis, moi, pour qu'ils s'épanouissent. Mais je veux pas qu'ils s'épanouissent dans le mensonge. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire?
Oui, je vois.
Je ne veux pas de racisme, mais je veux que l'on sache que ces textes-là peuvent porter préjudice à d'autres. Et moi, en tant que non-musulmane, en tant qu'athée, en tant que je dis, eh ben merde, j'ai le droit aussi de vivre, hein. Non, c'est vrai.
Non, c'est tout à fait vrai. J'ai une question d'un Québécois en terminant, Madame Delcambre.
Vous
me permettez, oui?
Mais oui, bien sûr.
Il y a Pete qui dit ici, parce que vous vous battez, Madame, et vous avez toute notre admiration. Vous avez le courage de vos convictions. Nous sommes en arrière de vous.
C'est bon, c'est gentil.
Madame Delcambre, moi je vous embrasse.
Mais moi aussi.
Je vous souhaite un excellent week-end. Vous êtes merci. Ma bombe à moi et aux auditeurs.
Merci. Merci beaucoup.
Ah oui.
Et je les embrasse aussi. Merci.
Vous êtes vraiment une icône et moi, j'espère promouvoir d'une certaine façon cette liberté avec vous, bien sûr.
Ah oui.
Le plus longtemps possible.
Merci beaucoup.
Merci, Madame Delcamp. Un bon week-end,
merci.
Hein?
Merci à vous.
Et je vais penser à vous demain matin avec mon café.
Merci beaucoup.
Au
moi aussi. Au revoir.
Bye bye.
Au revoir.
Alors, c'était Anne-Marie Delcambre. Pourquoi pas prendre une petite pause, hein? Je pense qu'on a longtemps discuté. Il y a plein de choses à dire tout de suite après ceci. Restez là, ma gang de fous! On va réussir à botter les culs. Wake up!
Pour émettre un commentaire ou joindre les animateurs en ondes, c'est simple.
Allô? Allô?
Ouais. Je pense que ça irait plus vite par MSN. Live@rockic.com, la meilleure façon de nous joindre en tout temps.